l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Cette semaine, quelques chefs-d'œuvre de la littérature française. Aujourd'hui, La Chartreuse de Parme de Stendhal.
Une chose assez étonnante chez Stendhal, je trouve, c'est qu'il était lui-même assez épais, courtois, rouge, et que tous ces jeunes gens qu'il a imaginés sont tous fringants, minces, bons cavaliers, bons danseurs, pleins de charme, et en général, à mon avis, un peu niais. Fabrice Del Dongo, le beau Fabrice, est un peu le cow-boy, si on peut dire, de la littérature de Stendhal.
Quand François Sagan disait que les héros stendhaliens paraissent un peu niais, c'était plutôt un compliment dans sa bouche. Minces, fringants, énergiques, ils sont comme en attente d'eux-mêmes. Léon Blum, qui parlait autrement que Sagan, disait « Ils sont dans une virginité sensible. C'est l'amour venant qu'ils naissent à eux-mêmes. » Pour Fabrice, cela se produira dans le ventre d'une forteresse où il vit séparé de quelques mètres de Clélia. Une forteresse où il mourrait volontiers dans sa proximité, vivre en amour, mourir en amour. Mais il y a aussi les nécessités politiques, sociales. Il faut gagner sa vie, composer avec la société de son temps. Stendhal se sent héritier des idéaux de liberté de l'autre siècle, mais au moment où il vit, la politique lui semble être entrée en décadence pour longtemps. Dans ces conditions peu reluisantes, l'autre héros de la Chartreuse, le comte Mosca, exerce comme il le peut le métier, peu reluisant donc, de Premier ministre. À chaque instant, il est tenté de donner sa démission pour vivre en amour. Tout de même, chaque matin où qu'il se trouve, le héros stendhalien continue de se lever avec l'idée du bonheur dans la tête.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Philippe Berthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec une équipe de complices, l'éditeur du troisième tome des œuvres romanesques complètes de Stendhal dans la bibliothèque de la Pléiade. Alors j'allais dire, ça y est, vous êtes un spécialiste de Stendhal. Non, vous n'aimez pas du tout être défini comme tel, vous préférez être dit stendhalien.
Oui, le terme de spécialiste me paraît profondément déprimant. Hein. Je pense toujours à ce que disait Julien Gracq, être spécialiste en objet aimé, quelle tristesse. Non, je préfère dire que j'aime Stendhal, tout simplement.
Alors, stendhalien, il faut bien prononcer comme ça, parce que ça se prononce comme scandalisé.
Ah oui, 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 ça c'est absolument certain. Nous avons une lettre de Stendhal à un de ses amis, où il dit « je vais encore vous stendhaliser ». Donc il jouait sur la parenté de son entre son nom, son pseudonyme et le terme de scandale. Il voulait être un scandale.
Le son, la musique, c'est très important. La Chartreuse de Parme, il va d'ailleurs la dicter à un rythme inouï pendant cette semaine. Je crois avoir lu dans votre notice, enfin, j'ai sans doute mal lu, Stendhal rédigeant bande comme un athlète de l'érotique imaginaire. Vous n'avez pas écrit ça?
J'ai écrit ça, je l'avoue et je le revendique. Ouais. Je fais allusion à une note personnelle, évidemment, qui n'était pas destinée à être connue, qu'on a retrouvée dans ses paperolles, où il se demande à lui-même « Aimes-tu mieux avoir fait ce roman ou avoir eu plusieurs femmes ?» Et on voit bien que l'écriture est une sorte de substitut sexuel. Stendhal n'a pas eu beaucoup de succès dans sa vie amoureuse et disons que l'écriture lui a donné certainement beaucoup plus de satisfaction.
Je ne veux pas vous faire passer un examen comme un spécialiste. Vous pouvez quand même nous dire de mémoire les toutes premières lignes. Nous sommes en 1796.
Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur.
Le général a 27 ans, le lieutenant Robert, un des héros, ah quoi, 20 ans, 25 ans, c'est toujours un peu flottant l'âge chez Stendhal. Il est en guenilles après 2 ans de campagne et il va approcher la marquise Del Dongo, belle figure de la vieille aristocratie italienne.
Les officiers avaient été logés autant que possible chez les gens riches. Par exemple, un lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise Del Dongo.
Je suis désolé, je ne suis pas présentable. Je ne sais même plus comment on se tient à table. Mais depuis 2 ans, dans les montagnes de Gênes, je n'ai vu que des choses laides et misérables.
Vous avez souvent dû voir la mort de près, j'imagine.
Le risque ne nous faisait pas peur. Nous l'avons toujours cherché. Nous nous battons pour vous et pour votre liberté. Il y a bien longtemps que l'Italie est le royaume du mensonge. Tout est mensonge dans ce pays. Et si l'on possède un minimum de sens civique, on ne tarde pas à mourir empoisonné par la mélancolie. En revanche, l'amour ici est délicieux. Dans les autres pays, on n'en trouve que la copie. Le vrai sentiment semble avoir été créé par les Italiennes.
Le téléfilm de Mauro Bolognini. Il y a quelque chose de spécifique à l'Italie, et pas seulement l'italienne. Qu'est-ce que c'est l'unicité italienne pour Stendhal ?
L'Italie, pour lui, c'est le pays où de la passion, c'est le pays où le moi, la personne, n'est pas bridée, n'est pas ligotée par le soupçon, par et surtout par la vanité, où il voit la passion nationale des Français. Donc les vaniteux sont toujours esclaves du regard d'autrui, ils sont empêchés de se livrer à leurs désirs, à leurs élans spontanés, parce qu'ils redoutent sans arrêt le jugement d'autrui. Ils vivent sous l'œil de l'opinion et des autres. Tandis qu'en Italie, et surtout chez les femmes, c'est un pays qui ne connaît pas de censure, ni d'autocensure, et où chacun, c'est peut-être un mythe, d'ailleurs les Italiens regardent quelquefois avec perplexité l'image que Stendhal leur renvoie d'eux-mêmes, ils aimeraient peut-être ressembler à l'idée que Stendhal se fait d'eux, mais en tout cas il se fait l'idée d'un pays où le désir ne connaît pas d'obstacle et peut s'avouer et s'accomplir librement.
Vous avez publié un joli livre dans les dernière, un de plus sur Stendhal chez De Fallois, avec Stendhal. Mais pourquoi n'êtes-vous pas avec Stendhal en train d'écrire en Italie, La fenêtre ouverte ?
Ah, je me le demande, surtout qu'il pleut aujourd'hui sur Paris.
Fabrice, le Marchesino del Dongo, qui va naître au moment de cette visite, ou peu de mois après, du lieutenant Robert chez la marquise, c'est un métis
bien entendu.
Italienne et de
c'est français. Un métis franco.
Bien entendu. Il y a une certaine ambiguïté qui est lancée par Stendhal.
Stendhal cultive évidemment un certain flou, mais le lecteur un petit peu sagace n'a pas de peine à deviner que le père biologique de Fabrice Del Dongo, c'est cet officier français, le lieutenant Robert, qui a eu une liaison quand il occupait Milan avec sa logeuse, si j'ose dire.
Mais il va passer son enfance et son adolescence dans les paysages d'Italie. Alors, le climat est artiste en Italie, mais le paysage est noble.
Oui, le paysage est noble. Il n'y a rien, dit Stendhal, qui rappelle les laideurs de la civilisation. C'est-à-dire les lacs, et surtout le lac de Côme, lui apparaît comme une sorte d'Éden, de paysage idéal, d'où l'homme n'est pas absent. Bien entendu, la nature est luxuriante, elle n'est pas domestiquée, mais il y a un mixte délicieux et incomparable de culture et de nature. C'est-à-dire qu'il y a des palais, il y a des villas merveilleuses, l'homme est intervenu, mais sans rien défigurer, sans rien saccager. Au contraire, il a même ajouté à la beauté de ce décor qui est une sorte de décor idéal.
Oui, mais l'homme est intervenu au bord du lac de Genève, c'est pas mal non plus.
Oui, mais à Genève, tout rappelle l'argent, c'est affreux. Et c'est d'autant plus triste que c'est la patrie de Jean-Jacques Rousseau, celui qui a le plus dénoncé l'aliénation par l'argent. Or, le lac de Genève, c'est le lac de la banque, et c'est le lac où tout est cultivé pour rendre du revenu, tandis que les grands arbres libres du lac de Côme, Stendhal était un amoureux des arbres, sont là pour rappeler la véritable vocation de l'être humain, c'est-à-dire la libre expansion de ses désirs.
C'est se promenant au printemps 1815, au bord du lac de Côme, que Fabrice, 16 ans, 17 ans, un peu plus, les âges sont toujours flottants, chez Stendhal, apprend que l'empereur a quitté l'île d'Elbe pour reconquérir la France, et aussitôt, il frémit de sentiments nobles.
Nous nous promenions, comme tu sais, sur le bord du lac, dans l'allée de Platane, au-dessous de la Casa Somariva. Et nous marchions vers le sud. J'ai remarqué au loin le bateau qui venait de Côme, porteur d'une si grande nouvelle. Comme je regardais ce bateau, sans songer à l'empereur, j'ai été saisi d'une émotion profonde. Le bateau a pris terre, l'agent a parlé bas à mon père, qui a changé de couleur, et nous a pris à l'écart pour nous apprendre la terrible nouvelle. Je me tournais vers le lac sans autre but que de cacher les larmes de joie dont mes yeux étaient inondés. Tout à coup, à une hauteur immense et à ma droite, j'ai vu un aigle, l'oiseau de Napoléon. Il volait majestueusement, se dirigeant vers la Suisse et par conséquent vers Paris. Et moi aussi, me suis-je dit à l'instant, moi aussi, je traverserai la Suisse avec la rapidité de l'aigle et j'irai offrir à ce grand homme bien peu de choses, mais enfin, tout ce que je puis offrir, le secours de mon faible bras.
Alain Libault dans le rôle de Fabrice, c'est une adaptation de Françoise Verny et Claude Santelli pour la radio. Et Fabrice de partir pour la France, nanti d'un peu d'argent par ses bonnes fées italiennes, sa mère et sa tante, la future Sanseverina. Et il va se retrouver, après un passage à Paris, sur le champ de bataille de Waterloo. Nous, on a fait une ellipse, là, on n'a pas mis de son qui évoque Waterloo. C'est normal, parce que ce morceau de bravoure est rédigé avec un Fabrice à la lisière de la bataille.
Oui, bien sûr, et la grande nouveauté de la... Enfin, on n'ose pas dire la description, il faudrait parler peut-être d'anti-description que donne Stendhal de cette bataille, c'est que le héros n'y comprend c'est-à-dire l'anti-héros n'y comprend absolument rien. Il évolue ballotté au gré d'épisodes incohérents, c'est complètement déconstruit, décousu, le contraire même de l'image que Victor Hugo dans Les Misérables donnera de la même bataille de Waterloo, qui est alors là la complète image d'Épinal où tout est centré, tout est cohérent et tout évolue autour de la figure de l'empereur, tandis que là, très significativement, Napoléon passe, on croit qu'il passe, peut-être passe-t-il, peut-être ne passe-t-il pas, on croit l'apercevoir, mais le centre est absent, il est fuyant, il n'y en a pas, c'est une sorte de dissolution de l'histoire et des formes, et c'est d'une modernité tout à fait exceptionnelle, parce que c'est la fin du modèle épique remontant à Homère, des grandes batailles qui sont intelligibles. Ici, littéralement, on n'y comprend rien.
C'est un collage, précubiste.
Absolument.
Alors, il lui semble avoir aperçu l'empereur, il voit le maréchal Ney, alors lui, le jeune homme fringant, le centaure, ce qui monte très bien à cheval s'il n'est pas doué pour tirer au fusil, il trouve que le maréchal Ney est superbe.
Oui, il est superbe, évidemment.
Et pourtant, il est gros, courtois.
Oui, il est rougeaud. Mais c'est une icône, c'est une image idéale, évidemment. C'est son héros, naturellement. Et donc, il faut que le roman commence par cette espèce de mise en congé de l'histoire. On assiste à la mise au tombeau de l'histoire épique.
Parce que il est trahi par ses camarades, ceux dont il croit qu'il partage le combat et qui sont des Français dans la débandade, et qui sont surtout soucieux de leur sort personnel et qui n'incarne pas la vertu révolutionnaire
bien
ou impériale.
Sûr. C'est véritablement la liquéfaction de l'illusion lyrique que le jeune Fabrice avait pu goûter dans par exemple la Jérusalem délivrée que Stendhal aimait tant. Donc le modèle d'amitié chevaleresque, de fraternité virile sur le champ de bataille, tout ça c'est du pipeau, ça n'existe plus.
Et d'ailleurs à un moment il est soulevé par ses supposés camarades qui l'ont enlève de son cheval, parce que le cheval doit être donné à un général en débâcle. Il y a quand même de beaux personnages féminins, Rougeaude, Courtaude, la Geôlière et la Cantinière, dans la littérature russe des babouchkas.
Oui, absolument. C'est les femmes du peuple qui sont en effet la note d'humanité, les mères courage qui accompagnent les armées et qui donnent une note d'humanité, de chaleur et de solidarité dans un océan de barbarie, de laideur. Stendhal, qui a vu les champs de bataille dans sa carrière qui l'a conduite jusqu'à Moscou. Hein. Stendhal, il faut le rappeler quand même, le seul écrivain français qui ait fait la retraite de Russie, il sait ce que c'est. Et il dit lui-même, à propos de Wagram, je crois, j'ai vu ce qu'on peut voir d'une bataille, ça ne dit rien.
Dites-moi, il a accompagné l'armée française, beaucoup plus jeune, en Italie. C'est ainsi qu'il a découvert l'opéra italien, notamment Cimarosa. On va vous laisser en appétit hein, parce que il faut sortir de table toujours le ventre encore un peu vide. C'est Cimarosa, mais dans le rondo d'un simple quartet, ni chant ni voix.
Thank you.
marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, la chartreuse de Parme, avec Philippe Berthier, qui, entre autres qualités stendhaliennes, édite pour la Pléiade, volume 3 des œuvres romanesques complètes. La chartreuse, alors c'était le quartet en ré majeur de Cimarosa, avec l'insieme strumentale di Roma. C'est bien Parme, on va en venir à Parme, où se réfugie après cette aventure à Waterloo, Fabrice del Dongo, mais il y manque la Scala de Milan. Il y manque pas mal de choses. C'est ce que pense le prince. Comment il s'appelle le prince? Il porte un nom extraordinaire.
Ernestranus.
Cinq. Oui. Quatre.
Quatre d'abord.
Quatre d'abord. Ensuite. Alors parlons du quatre. Mmh. Le quatre se verrait bien en Louis XIV. Alors il a mis dans son bureau un immense portrait de Louis XIV qu'il tente d'imiter. Mais c'est Lilliput, la principauté de Parme.
Bien sûr, c'est Versailles à Lilliput. C'est-à-dire, il y a cette obsession lancinante du modèle versaillais qui représente évidemment l'absolu de la monarchie triomphale et qui empêche tous les principicules de dormir parce qu'ils voudraient évidemment ressembler au roi soleil. Et en même temps, toute cette ambition dérisoire s'exerce sur un territoire minuscule. Et donc, tout est en quelque sorte en modèle réduit, et ce qui, bien entendu, rapetisse absolument les enjeux et nous oriente vers une principauté de comédie. Valérie parlait d'opérette, ce qui est juste et faux à la fois. C'est juste parce que c'est comique et même quelquefois bouffon, mais en même temps, c'est une opérette tragique parce que il y a des prisonniers politiques qui croupissent dans des culs de basse fosse. On fait des simulacres d'exécution, la justice est totalement pourrie, il y a aucune liberté de la presse, enfin c'est un régime épouvantable.
Ces principicules sont animés par la peur. Le prince de Modène interdisait les diligences parce qu'il disait qu'il n'y avait que les Jacobins qui voyageaient.
Voilà.
Mais le pape Grégoire XVI, dans ses états pontificaux, ne voulait pas de chemin de fer non plus. Voilà. Peut-être un peu pour la même raison. Et à force de semer la peur chez leurs sujets, ils sont habités eux-mêmes, les principicules, par la peur.
Bien entendu, le prince fait faire la tournée de son palais chaque nuit avant de se coucher. On regarde sous les lits, on est terrorisé à l'idée qu'un conspirateur ait pu se cacher quelque part, fût-ce dans un étui de contrebasse. Enfin, c'est absolument pitoyable, c'est-à-dire que cet homme vit dans la peur permanente de l'attentat.
Par exemple, il s'ennuie le soir, surtout que la princesse n'est pas très désirable. La Sainte Séverina, la tante de Fabrice, tient salon juste en face. Mais alors, pour sortir, il faut disposer des gardes sur le chemin, parce qu'on ne peut pas sortir comme ça à l'improviste. Et puis, chez la Sainte Séverina se tient le ministre du prince, le comte Mosca. Alors, on lui a demandé d'arrêter le temps. Il s'y emploie, arrêter le temps, même s'il pense que dans 50 ans, les choses changeront beaucoup. La Sainte Séverina lui a demandé de protéger son neveu, Fabrice. Il s'y emploie, mais vouloir arrêter le temps et protéger Fabrice, c'est un peu difficile.
Je le voudrais, officier.
Conseilleriez-vous à un souverain de confier un poste qui, dans un jour donné, peut être de quelque importance? Un jeune homme premièrement susceptible d'enthousiasme, deuxièmement d'avoir montré de l'enthousiasme pour Napoléon au point d'aller le rejoindre à Waterloo. Songez à ce que nous serions tous si Napoléon est vaincu à Waterloo. Nous n'aurions point de libéraux à craindre, il est vrai, mais les souverains des anciennes familles ne pourraient régner qu'en épousant les filles de ces maréchaux. La première qualité pour un jeune homme aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 50 ans peut-être, tant que nous aurons peur et que la religion ne sera point rétablie, c'est de n'être pas susceptible d'enthousiasme et de n'avoir pas d'esprit.
Le prince Ernestranus IV, c'est Louis XIV en format très réduit, et Mosca, c'est Metternich, l'homme de la Sainte Alliance, en format réduit, peu d'illusions, beaucoup d'esprit.
Oui, c'est-à-dire le soir de Waterloo, enfin quand il apprend la défaite de Waterloo, Stendhal, qui d'ailleurs n'est pas en France mais en Italie, dessine dans son journal un été noir. Il dit voilà le blason de la France d'après Napoléon. Tout sera éteint. C'est l'extinction des feux sur l'Europe qui entre dans le règne de la gestion et de la médiocrité après le moment de la vision. Et bien entendu, Mosca qui, c'est très remarquable et c'est intéressant de le rappeler, a servi Napoléon. Il a fait la campagne d'Espagne très courageusement, n'a pas retourné sa veste, je pense, mais essaie de sauver ce qui peut l'être dans un régime absolument aberrant. Il essaie de corriger les abus les plus choquants, les excès les plus monstrueux, pour sauver, encore une fois, les meubles, ce qu'on peut dire. Alors évidemment, on peut juger sévèrement Mosca en disant il devrait tout laisser tomber, il ne cesse de brandir sa démission, mais finalement il ne la donne jamais, et on comprend bien que Stendhal montre dans son cas, c'est l'histoire d'un drogué de la politique. En dehors de la politique, il ne peut pas vivre, il en a absolument besoin, c'est son oxygène. Donc jusqu'à la fin, il restera. Et quand le roman se termine, il est encore Premier ministre, le seul survivant. Tout le monde est mort sauf lui.
Mais comme vous êtes en train de dessiner un parallèle quand même avec la situation d'aujourd'hui, Mosca, avouez qu'il a raison de ne pas croire à la relève, à ceux qui pourraient prendre la place à l'alternance libérale.
Ah oui, bien entendu, il n'a aucune illusion. Et le jour où il y a un soulèvement à Parme, il fait tirer sur la foule. Il fait tirer sur les insurgés. Il y a des morts. Et il s'arrange pour travestir, selon la meilleure logique de toutes les dictatures, ces morts seront caviardés. On va dire que les victimes sont parties voyager à l'étranger.
Oui, mais les libéraux, c'est le nom qu'on donne à la relève. Mmh. À l'époque, c'est synonyme de défense des libertés. Mmh. Les libéraux, c'est une secte aussi pour Stendhal.
Oui, Stendhal dit que qu'il est libéral, mais qu'il ne trouve personne de plus stupide que les libéraux. C'est-à-dire les propres gens, les gens de son propre parti qui partagent ses idées. Stendhal est quelqu'un qui est très pragmatique, qui n'a aucune illusion. Ses sympathies vont vers ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche, mais il n'a absolument pas le tempérament d'un militant. Il ne s'engage pas, il observe et il constate surtout qu'il ira même jusqu'à dire ce qu'on lui a reproché, qu'il se trouve mieux avec un réactionnaire spirituel qu'avec un libéral stupide.
C'est un peu comme vous au fond, quand vous apercevez que vous pourriez appartenir à un parti, vous cherchez les raisons qui sont les bonnes dans l'autre parti.
C'est-à-dire, voilà, je pense que le Stendhal nous apprend peut-être une leçon de relativisme.
Les adhérents, ce sont des mollusques.
Oui, c'était Valéry qui disait ça, il n'y a que les moules qui adhèrent.
Alors, le destin de Fabrice, protégé toujours par Mosca, et en dépit de cette protection, il est inscrit dans les astres, il va devoir s'accomplir, tôt ou tard, dans une prison. Un duel imprudent, les manœuvres du clan qui, à la petite cour de Parme, s'opposent à la Sanseverina et à Mosca, font qu'il se retrouve à la tour Farnèse, un bâtiment digne du Piranèse. Et là, dans sa chambre, on a mis des abat-jours, des volets, mais il les perce, il les déplace, et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? L'ouverture ménagée, la belle Clélia.
Vers midi, Clélia vint soigner ses oiseaux. Fabrice resta immobile et sans respiration. Il était debout contre les énormes barreaux de sa fenêtre et fort près. Il remarqua qu'elle ne levait pas les yeux sur lui, mais ses mouvements avaient l'air gênés comme ceux de quelqu'un qui se sent regardé. Il la suivait ardemment des yeux. Certainement, se disait-il, elle va s'en aller sans daigner jeter un regard sur cette pauvre fenêtre, et pourtant elle est bien en face. Clélia ne put s'empêcher de le regarder. Et c'en fut assez pour que Fabrice se crût autorisé à la saluer. En faisant un effort sur elle-même, elle salua le prisonnier avec le mouvement le plus grave et le plus distant. Mais elle ne put imposer silence à ses yeux. Fabrice restait immobile à regarder la porte par laquelle elle venait de disparaître. Il était un autre homme.
Il était un autre homme. Ce jeune homme qui avait tant de succès, eut tant de maîtresses, il naît à l'amour dans une forteresse.
Il y reste d'ailleurs 9 mois.
Et il aimerait bien y mourir.
Il aimerait bien y mourir.
Dans la mesure où Clélia est juste en face. Alors c'est un éloge de la réserve chez Stendhal. Ce jeune homme s'est réservé pour le vrai amour. Et elle aussi l'attendait.
Oui. Stendhal est quelqu'un qui pense que la rencontre peut et doit advenir. Quelquefois, il faut l'attendre longtemps, mais il croit peut-être à une certaine prédestination. Il y a chez Stendhal qui était rationaliste et même, selon par certains aspects, matérialiste, un sens du mystère, peut-être de la prédestination. Les présages sont très importants dans La Chartreuse de Parme. Les étoiles, le personnage de l'abbé Blanesque.
Qui l'a enseigné, voilà, qui a lu son destin dans les astres.
Une dimension mystérieuse de l'existence humaine. Et on peut penser qu'entre Fabrice et Clélia, il y a une conjonction astrale, peut-être, qui se produit à l'endroit le plus inattendu, le plus improbable, puisque c'est le lieu de l'oppression et de la mort.
Et c'est une sorte de rencontre d'amour courtois. Parce que ce qui intéresse Stendhal, c'est la partie la plus noble et la plus intellectuelle. Oui. De l'amour, pas beaucoup de descriptions.
La réunion sexuelle tient en quelques mots. Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Certains lecteurs passent sur cette phrase sans comprendre ce que ça signifie, ce qu'ils font l'amour dans la prison. Mais tout ça passe comme un rêve, on n'insiste pas, on glisse, et ça n'est pas l'essentiel.
Un mot sur la fortune critique de La Chartreuse de Parme. Balzac lui a fait un grand succès, a consacré un grand article à Stendhal, qui le faisait entrer parmi les romanciers majeurs. Ce qui n'avait pas été le cas jusque-là, mais La Chartreuse s'est beaucoup vendue.
Non, La Chartreuse ne s'est pas énormément vendue, mais ça n'a pas été l'échec absolu et le silence assourdissant de la critique, comme on l'a dit quelques fois. On a pu réunir un dossier de presse assez convenable, mais il est certain tout de même que Stendhal n'avait pas du tout le statut de romancier majeur qu'il a pour nous maintenant, et que l'article exorbitant de Balzac a été le premier à le mettre à sa place.
Romancier majeur, le voici pour la deuxième fois dans la Pléiade. Par vos soins et les soins de vos camarades. Je recommande aussi chez Tefalois, avec Stendhal, sous votre signature. On n'a pas dit comment tous les héros de La Chartreuse de Parme meurent, mais il faut se hâter, il faut hâter la fin. C'est comme dans La Chartreuse de Parme, c'est un petit peu bâclé. Juste le temps de donner le générique, avec à la technique Kevin Pelot, la préparation Elinka Negulesco, et à la réalisation Jacques Sigal.